Chapitre 31. Anna. Je regarde Charline remuer la sauce tomate dans la casserole avec une cuillère en bois, en prélever une petite quantité, et la goûter après avoir soufflé dessus pour ne pas se brûler. Ensuite, elle ajoute du sel, du poivre et quelques feuilles de basilic. La cuisine, ce n'est pas si différent de l'art floral. Moi aussi, je prends du recul. J'observe ma composition avant de rajouter un peu de feuillage ou de repositionner une fleur. « Où as-tu appris à cuisiner ?» je lui demande, rompant le silence qui s'est installé. Elle sursaute, comme si elle avait oublié ma présence tellement elle était absorbée par ses préparations.
« J'ai fait une école hôtelière, mais au fond, j'ai appris en regardant ma mère et mon grand-père. C'est lui le premier cordon bleu de la famille. » Il aimait la faire autant que la faire aimer. Je me souviens que, petite, je devais avoir 5 ans à peine, il me faisait monter sur un tabouret pour que je puisse observer ses gestes. Il me parlait des légumes avec passion, m'expliquant l'importance des saisons. Crois-moi qu'avec lui, il n'était pas question de manger une salade de tomates au mois de décembre. Il me montrait comment marier les saveurs, comment relever un plat, une sauce, en y ajoutant des herbes ou des aromates. Il aimait particulièrement les baies roses, qu'il concassait sur une rondelle de fromage de chèvre déposée sur une tranche de pain de campagne toastée. Quant à ma mère, elle était plutôt pâtissière dans l'âme, aux grandes dames de son père qui trouvait cet art culinaire beaucoup trop strict. Il aimait ajouter des ingrédients au gré de ses envies. Il adorait l'approximation des dosages. Autant te dire qu'il ratait toutes ses pâtes à choux.
J'aimerais beaucoup savoir cuisiner comme toi. Moi, je ne sais faire que des pâtes. C'est ce que ma mère préparait la plupart du temps. J'ai grandi dans une famille nombreuse. On n'avait pas beaucoup d'argent. Mais je m'étais dit que j'essayerais d'apprendre pour Suzanne. Je voulais éviter qu'elle ne connaisse que les petits pots tout prêts.
Je peux te montrer si tu veux. Beaucoup de gens pensent que c'est difficile de faire de bons plats. Mais en réalité, il existe des centaines de recettes simples et délicieuses. Mon grand-père citait souvent cette phrase de Pierre Perret. Pour bien cuisiner, il faut de bons ingrédients, un palais, du cœur et des amis.
Tu l'aimais beaucoup, on dirait.
Oui, c'était l'homme de ma vie. Il est mort l'année dernière. Je l'ai supplié pendant des années de coucher par écrit ses meilleures recettes. Il n'a jamais voulu. La cuisine, ça ne se fige pas, ma petite Charline. Sa vie, ça évolue. Je ne fais jamais le même bœuf bourguignon. C'est ça qui est magique et qu'il faut préserver. Appuie-toi sur ton instinct, tes envies. Ça vaudra tous les livres de recettes du monde. Je crois que si je m'appuie uniquement sur mon instinct, tout risque d'être carbonisé et immangeable.
Charline rit.
Oh, tu sais, moi aussi j'ai jeté le contenu de plusieurs casseroles après m'être un peu trop laissé aller à la créativité, me dit-elle. C'est comme ça qu'on apprend. Tu es prête pour ta première leçon? La pâte à pizza. Rien de plus simple. Et c'est l'idéal en cas de flémingite culinaire aiguë. La pizza, c'est une infinité de possibilités, de la plus classique à la plus élaborée.
Je l'écoute attentivement me présenter les ingrédients, me parler de l'importance de choisir la bonne farine, puis je la regarde mélanger la préparation dans un saladier avant de commencer à pétrir la pâte. Ses gestes sont réguliers et précis. Petit à petit, une boule homogène se forme.
Les puristes te diront de ne jamais mettre d'huile d'olive dans une pâte à pizza. Et ils auront raison. Mais j'ai appris à ne pas suivre leurs conseils,
m'indique-t-elle, en ajoutant 2 cuillères à soupe du liquide ambré.
Tu vas voir, ça apporte du croquant et de la coloration.
Alors qu'elle pousse le saladier vers moi pour m'inviter à malaxer la pâte à mon tour, nous sommes interrompus par les jappements d'Hippo, qui surgit de la terrasse et se précipite ventre à terre entre les jambes de sa maîtresse. Il couine et tremble comme une feuille.
« J'en connais un qui vient de croiser un chat !»
lance Charline. « Un chat ?»«
Oui, Hippo a une peur bleue des chats. Je sais, ce n'est pas très courant pour un chien. Présente-lui un énorme molosse, il remuera la queue. Mais amène-lui un chaton et il détalera comme un lapin. »
Elle s'essuie les mains sur un torchon et s'écarte du plan de travail. Hippo toujours collé à elle.
C'est qu'il serait capable de me faire tomber? Bouge de là, mon chien! Que j'aille voir le spécimen sanguinaire qui t'a fichu la frousse.
Je suis Charline sur la terrasse. Hippo est à plat ventre derrière nous et observe la scène à bonne distance. Nous nous taisons quelques instants, mais n'entendons rien de particulier.
« Ne me dis pas que tu as eu peur de ton ombre cette fois-ci !»
lance Charline amusée à un hippo qui n'emmène toujours pas large. Soudain, je l'entends. Un miaulement, assez faible.
« Je crois que ça vient de là !» dis-je en me dirigeant vers les transats.
J'avance en silence de quelques pas, puis m'arrête. Un autre miaulement. Cette fois-ci plus net. Je me baisse mais ne vois rien. Je tends l'oreille. Un nouveau miaulement. Il semble provenir d'au-dessus de ma tête. Je m'approche du parasol fermé pour en soulever un pan de tissu. Coincé entre les baleines, un minuscule chaton tente tant bien que mal de garder l'équilibre pour ne pas tomber.
« C'est un chaton !» dis-je à Charline. « Et je ne sais pas qui de lui ou d'Hippo a eu le plus peur, mais je parierais bien sur une égalité. »
J'allonge le bras, le plus lentement possible, pour ne pas effrayer le petit animal.
« N'aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal. Là, tout doux !»
Puis, je me mets à fredonner, comme je le faisais avec Suzanne pour la calmer. J'attrape la petite boule de poils qui va aussitôt se réfugier dans mon cou, plantant ses griffes dans mon bras au passage. Derrière moi, j'entends Hippo couiner et je devine qu'il est reparti se réfugier quelque part, dans un endroit plus sûr. Aidé par Charline, je décroche le chaton de mon cou. Vu sa taille, il ne doit pas avoir plus de quelques semaines. Il est tout gris, avec de grands yeux bleus.
« Tu crois qu'il est perdu ?»
je demande à Charline.
« Je ne sais pas, mais il ne semble pas très bien nourri. Ça m'étonnerait que sa mère soit dans les parages. »
Je le caresse et il arrête tout de suite de miauler pour ronronner bruyamment.
« On peut peut-être lui donner un peu de lait ?»«
Non, sur sauveunchaton.com, ils disent que le lait de vache peut le rendre malade, » me répond Charline, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. « Il faudrait du lait maternisé pour chaton. Il y a un vétérinaire pas très loin d'ici. On y va ?» propose-t-elle. « De toute façon, il faut attendre que la pâte à pizza lève. »